Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Un très grand bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de votre émission littéraire. C'est en effet Wagon Livre jusqu'à midi sur Radion. Nous vous proposons aujourd'hui un entretien qui a été enregistré en public le 24 juin dernier en Côte d'Or, précisément à la bibliothèque de Semur en Aussois, lors du troisième rendez-vous du Cercle des auteurs bourguignons. Un rendez-vous initié par Virginie Ravarotto de la bibliothèque municipale de Semur en Aussois et de Cyril Lefebvre, libraire dans cette belle cité médiévale de Côte d'Or. Je remercie et je salue notre public. Merci à vous, cher public. Et le troisième invité du Cercle des auteurs bourguignons est Marc Forestier. Bonjour Marc Forestier.
Bonjour.
Vous êtes invité du Cercle des auteurs bourguignons puisque vous avez fait paraître en deux volumes un ouvrage qui a pour titre « La vie épistolaire d'Henriette d'Angeville ». Alors Henriette d'Angeville est née en Côte d'Or, à Semur en Aussois en 1794, elle meurt en Suisse, à Lausanne, en 1871, pour être très helvète. Et elle est une figure emblématique de l'alpinisme féminin. Travail remarquable, vous vous êtes plongé dans cette riche correspondance, puisqu'elle écrivait et elle lisait 12 heures par jour. Et dans ses lettres, il y a au moins 400 personnalités qui sont nommées. Alors des correspondances d'affaires, des correspondances privées avec des amis, des membres de la famille. Avant que de dérouler le parcours de cette femme qui, effectivement, gravit le Mont-Blanc, je crois les 3 et 4 septembre 1838, pour débuter notre échange, Marc Forestier, je souhaiterais que vous nous expliquiez ce qui vous a conduit à découvrir ces lettres et à vous plonger dans cette correspondance, d'une part. D'autre part, comment avez-vous connu et rencontré Henriette d'Angeville? Car j'ai l'impression que c'est la femme que vous connaissez le mieux dans votre vie.
Peut-être pas, mais effectivement, j'ai vécu, disons, 2 ans avec elle à travers sa correspondance et je commence à saisir la richesse de sa personnalité. C'est une rencontre tout à fait fortuite, puisque c'est en effectuant des recherches historiques sur une famille d'avides originaire du Haut-Jura, de lapidaires qui, fortune faite, ont acheté le château de Voltaire à Ferney, et dont elle est devenue, en 1852, la voisine, puis l'amie. Et elle a entretenu une correspondance avec la famille David pendant une décennie, de manière assez régulière. Et c'est cette correspondance qui m'a permis de faire la connaissance d'Henriette d'Angeville. Au-delà du fait qu'elle était connue comme ascensionniste du Mont-Blanc, j'ai découvert la richesse de ses personnalités à travers ses lettres. Et puis dans un deuxième temps, en essayant de contextualiser cette correspondance de 10 ans dans sa vie, j'ai eu la chance, un heureux concours de circonstances, de découvrir ses archives personnelles qui venaient d'intégrer les archives départementales de l'Ain en provenance d'un château de Montveyran qui domine Culoz.
Et alors, où se trouvent les lettres? Elles sont disséminées? Elles sont dans des bibliothèques en Suisse, en France?
Alors, la correspondance avec la famille David était détenue par un descendant de la famille qui est historien. Et elles étaient au Canada. Et il m'a contacté en 2016 pour me demander de travailler avec lui à l'histoire de sa famille. Donc ça, c'est le point de départ. Ensuite, j'ai trouvé des lettres qui étaient à Genève, à la bibliothèque de Genève. J'ai eu la chance là aussi d'accéder à un fonds privé qui venait d'être classé, qui n'était pas encore répertorié, et c'est une archiviste qui me l'a signalé pendant que j'étais en salle de lecture. Donc qui donnait un regard très intéressant sur ses relations genevoises et sur ses relations avec des artistes genevois. J'en ai trouvé quelques éléments à la Bibliothèque universitaire de Lausanne. Le musée historique Lausanne, où elle est décédée, comme vous l'avez dit, conserve son journal sur la période de 1862 à 1865, journal dans lequel elle raconte sa dernière ascension à près de 70 ans au sommet de l'Oldernhorn, le point culminant des Alpes vaudoises. Et puis, le gros, en fait, de la correspondance de toute la fratrie d'Angeville, eh bien, c'est aux archives départementales à Bourg-en-Bresse que je les ai découvertes, un fonds qui n'était pas encore classé, mais auquel l'archiviste en charge des archives privées a pris l'initiative et a eu l'amabilité de me proposer de me donner l'accès.
Alors la graphie est soignée, très féminine, ça doit être une émotion de découvrir plus d'un siècle après sa mort les lettres très nombreuses. Alors elles peuvent faire 20 pages, 40 pages
44
parfois.
Pages, oui, dans une lettre d'affaires avec son frère, une lettre un peu de règlement de compte au sujet d'un différend sur la jouissance d'une maison qu'il lui a accordée, dont elle assure les travaux de restauration, elle a dépassé le budget, elle est sommée de s'en expliquer. Elle est effectivement une grande épistolière au sens propre, parce qu'elle écrit beaucoup, mais également par un talent assez exceptionnel, qui a été souligné, reconnu d'ailleurs par son amie, la romancière britannique Lady Bulwer, qui la qualifie d'espèce de Sévigné tramé Bayard, en disant que pour l'écriture, au pied de la lettre, elle est l'équivalent de la marquise, mais qu'en plus, elle a ce tempérament chevaleresque du chevalier Bayard.
Alors, elle a d'ailleurs un rapport addictif à l'écriture. Vous reproduisez ce qu'elle écrit dans une de ses lettres. « Je ne peux plus me passer de mon picotin épistolaire qu'un cheval de poste de celui d'Avoine. » Superbe.
Oui. Oui, elle a un sens de la formule assez remarquable. C'est une grande lectrice, comme vous l'avez dit. Elle lit beaucoup. Ce n'est pas une insomniaque, mais elle se contente de elle n'a pas besoin de beaucoup de sommeil. En fait, elle dort 3 à 4 heures par nuit. Elle lit la nuit, elle écrit parfois la nuit, et la journée, s'il fait beau, elle est au jardin, parce que c'est une passionnée de jardinage. On en reparlera peut-être de son rapport aussi à la botanique.
Oui. Oui.
Mais elle, s'il fait mauvais, elle est capable d'écrire toute la journée jusqu'à ce que les yeux brûlent.
Alors en tout cas, vous précisez que sa correspondance montre d'elle une grosse franchise revendiquée, qu'elle a le don de voir et de raconter. Vous parlez de prestesse de style, d'une verve prime sautière. Vous dites que la langue est truffée de néologismes et vous ajoutez que sa correspondance tient beaucoup du commérage.
Oui, un peu.
Parfois.
Parfois, voilà. Elle tient pour la famille David qui séjourne à Paris pendant l'hiver, où ils ont un immeuble près de l'opéra. Elle leur tient ce qu'elle appelle la Gazette fernésienne. Donc dans cette gazette, il y a pas mal de ragots, mais il y a aussi toutes les informations sur la vie politique qui intéressent les David, sur les affaires à Genève, Alors il y a le bulletin aussi, ce qui est très marrant. Dans chaque lettre, il y a l'état sanitaire de la population, hein, et qui se résume parfois à une rubrique nécrologique.
Alors, il faut dire aussi qu'elle a beaucoup d'empathie pour les miséreux, les, oui, malheureux. Elle a vraiment donné beaucoup de sa personne, notamment lors d'une épidémie de typhus, c'est bien cela, oui, à Lompnes, donc on est dans le département de l'Ain, hein, oui, c'est cela, où elle n'hésite pas à venir secourir des habitants qui sont affaiblis. Elle a, on pourrait dire, beaucoup de cœur. D'ailleurs, un de ses frères parle d'elle. Il dit, c'est ma sœur de charité.
Oui. Effectivement, elle a beaucoup de courage physique. Elle l'a prouvé dans ses ascensions, mais aussi vis-à-vis des risques sanitaires. Elle va au-devant des malades du typhus chez eux. Et son frère Gustave, qui est magistrat à Lyon à cette époque, la supplie de prendre des précautions et d'être plus prudente dans ce temps qu'elle se donne avec générosité. Et il lui formule aussi toutes sortes de recommandations sur la salubrité de l'habitat, sur les améliorations qui pourraient être apportées, sur la nourriture qui... pour éviter les pains lourds indigestes, sur l'usage, le recours à la chaudière de la coopérative pour faire des soupes plus riches en légumes. Et elle a également un grand respect des morts. Et il y a deux scènes qui sont assez poignantes dans lesquelles elle décrit sa toilette à une jeune... sage-femme qui vient de décéder à 20 ans et qui est abandonnée et dont le visage, elle voit des fourmis à la commissure des lèvres, etc. Et ça la choque et elle va avec sa bonne faire la toilette de cette jeune fille et lui rendre sa dignité. Et elle fait de même avec un jeune suicidé, noyé, qui a été retrouvé sorti d'un étang, auquel elle a fait pratiquer le protocole en fait, de soins pour les noyés, dans l'espoir de le sauver, alors qu'elle savait très bien que c'était peine perdue, mais elle l'a fait faire quand même. Et quand elle a vu qu'il avait été jeté à l'arrière-boutique d'un café dans des tessons de bouteilles, cassée, ça l'insupportait. Il n'y avait pas de mairie encore à l'époque à L'Aune. Ça s'écrit Lompnes, mais ils prononcent localement L'Aune. Et les d'Angeville habitaient le château de Lune. C'est la formulation poétique de la fratrie d'Angeville, dont la localité, dont leur père était le seigneur avant la Révolution. Et donc, il y a plusieurs scènes comme ça où on voit bien sa révolte par rapport au mépris qu'on peut avoir par rapport à des gens de modestes conditions.
La vie épistolaire d'Henriette d'Angeville nous intéresse aujourd'hui avec Marc Forestier, l'invité du Cercle des auteurs bourguignons. On revient sur la vie et notamment la naissance à ce mur en Aussois de Henriette d'Angeville avec vous et on marque un premier intermède musical. Je rappelle que ce wagon-livre a été enregistré le 24 juin dernier à la bibliothèque municipale de Semur en Aussois et en public.
Ça va changer.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Nous retrouvons Marc Forestier qui signe la vie épistolaire d'Henriette d'Angeville, la reine du Mont-Blanc. Rappelons qu'elle a gravi le Mont-Blanc les 3 et 4 septembre 1838, 30 ans après l'aventure de Marie Paradis, qui elle est la première femme véritablement à avoir gravi le Mont-Blanc, Marie Paradis. C'est en 1808, donc 30 ans avant Henriette d'Angeville.
Mais dans un contexte très différent. En fait, Marie Paradis était une jeune servante de la vallée de Chamonix qui était fiancée à un guide. Ça, je l'ai appris tout récemment dans un article du New Yorker de 1840 qui relatait l'ascension d'Henriette d'Angeville. Et en fait, à l'époque, il y avait un clivage entre les guides. Il y avait ceux qui voulaient réserver l'ascension du Mont-Blanc à une clientèle élitiste, masculine et fortunée, donc avoir peu de clients qui payaient très cher, et puis d'autres guides, dont Balma, le premier à avoir fait l'ascension du Mont-Blanc, ainsi que son fils âgé de 15 ans, et qui préconisait une démocratisation de l'accès au Mont-Blanc pour être plus nombreux et à pouvoir travailler avec ce sommet mythique. Et leur raisonnement était de dire, si on veut démocratiser cette ascension, le meilleur moyen serait d'emmener une femme là-haut, parce que si une femme arrive au sommet du Mont-Blanc, tout le monde pensera qu'il est capable d'y aller. Et c'est comme ça que Marie Paradis a été embarquée, de manière volontaire au départ, mais en fait elle a été tellement malade pendant l'ascension, elle a été victime du mal des montagnes de manière assez sévère, et elle a cru mourir, elle était quasiment inconsciente, et donc elle a été tirée, poussée, portée au sommet, et ses compagnons l'assurant que ça lui assurerait donc une rente de situation, et effectivement elle a eu après la visite de tous les étrangers, notamment les Anglais, qui venaient dans le petit estanco qu'elle avait ouvert voir la femme qui avait fait l'ascension du Mont-Blanc.
Revenons aux origines. Henriette d'Angeville est née à la toute fin du XVIIIe siècle, très précisément le 20 Ventôse de l'an 2. Alors j'insiste, en donnant sa date de naissance et en utilisant le calendrier républicain révolutionnaire, parce qu'elle est née donc le 10 mars 1794. Elle naît donc dans un milieu aristocratique. Son père est officier de la cavalerie royale. Et la terreur, puisqu'elle naît sous la terreur, va être une période historique marquante, au point qu'elle, toute sa vie, elle conservera une peur viscérale des mouvements de foule et de la crainte des insurrections populaires.
Exactement. Au moment de la naissance d'Henriette d'Angeville, en fait, du côté de sa famille maternelle, les Saliers, qui est une famille de noblesse de robe comptant beaucoup de grands magistrats, son grand-père maternel, qui a été président du tribunal de Dijon et qui, avant la Révolution, est président de la Cour des Aides à Paris, a été arrêté à Saumur, transféré à Dijon. Il va être transféré à Paris et il sera guillotiné un mois après la naissance d'Henriette. Guillotiné, condamné par erreur à la place de son fils Henri Guy. Henri Guy, c'est lui, et son fils, c'est Guy Marie, qui était émigré. Et sur la base simplement d'une lettre relativement anodine mettant en cause le Parlement, et une lettre très antérieure qui doit dater de 1790. Et tous les Saliers sont incarcérés à ce moment-là, de même que le père d'Henriette, qui est à la prison du château à Dijon, et qui obtient l'autorisation de venir à Saumur parce qu'il a besoin d'un certificat de résidence pour prouver qu'il ne figure pas, en fait, pour être sorti de la liste des émigrés, parce que c'est ce grief qui lui est reproché. Et il assiste à la naissance d'Henriette entre deux gendarmes dans une maison dont on dit que tous les meubles en avaient été vendus, à l'exception du lit dans lequel sa mère accouchait, et il va déclarer donc à la mairie de Saumur la naissance sous le prénom de Pensée, pour être conforme au calendrier républicain. Et ce n'est qu'en 1804, après avoir perdu sa mère, et au moment où elle entre au collège à Belley, qu'elle est rebaptisée Marie-Henriette. Et cette mention figure en marge sur l'acte de naissance de Semur conservé aux archives départementales de Côte d'Or.
Alors vous l'avez dit, Marc Forestier, la mère d'Henriette d'Angeville meurt prématurément. Et elle a vécu surtout dans un univers très masculin entre son père, donc le comte Charles d'Angeville, et trois frères, Henri, Gustave, qui sera un temps au collège avec Lamartine, et Adolphe, qui fera lui une carrière, enfin un début de carrière dans la marine royale. Donc elle a vécu surtout dans un univers de garçons.
Oui.
Ça a sans doute peut-être forgé un personnage fort, courageux.
Oui, à la fois elle a la rusticité d'une montagnarde parce que elle arpente les montagnes du Jura méridional dans le Haut-Bugey. Et d'après les souvenirs qu'elle rapporte à la fin de sa vie, ce serait vers l'âge de 10 ans qu'elle aurait aperçu le Mont Blanc depuis le Golet de la Rochette, donc qui est le col sur la crête dominant le plateau d'Hauteville, et d'où l'on aperçoit par-delà les forêts du Valromey de Résineux et par-delà la chaîne des Aravis, la silhouette immaculée du Mont Blanc. Et c'est cette impression très forte qu'elle a eue à ce moment-là qui daterait le désir ou les velléités de cette ascension qu'elle ne concrétisera que bien plus tard, puisqu'elle avait 44 ans quand elle a entrepris l'ascension du Mont Blanc.
Vous dites et vous écrivez qu'elle a une forte relation spirituelle avec la montagne.
Oui, dans son, elle explique à plusieurs reprises et elle revient à la fin de sa vie là-dessus. Et le jeune géographe Cortambert lui rend hommage dans un ouvrage sur les femmes voyageuses. Elle allait chercher des émotions esthétiques. Et y a une dimension un peu mystique suffisamment forte pour alimenter son musée intérieur et pour elle avait le besoin de nourrir sa vie intérieure pendant sa retraite qu'elle imaginait à l'aune, parce que contrairement à ce qu'on a pu écrire à son sujet, elle n'est pas du tout d'une famille aristocratique fortunée. Comme vous l'avez laissé entendre, elle a été spoliée lors de la succession paternelle. Elle a consacré la moitié de l'héritage paternel à financer son expédition au Mont Blanc avec 12 guides ou porteurs et surtout à faire réaliser toutes les illustrations de l'album de cette ascension par des artistes qui ont travaillé à partir de ses propres esquisses. Et ça lui a coûté très cher. Et donc, elle vit toujours aussi un peu dans la hantise, non pas de la pauvreté, mais elle est très angoissée.
Elle est économe,
oui,
en tout
voilà.
cas.
Elle vit de manière assez sobre, mais elle a beaucoup de dépenses liées à ses voyages, à des acquisitions d'œuvres d'art. Elle fait beaucoup de troc parce que c'est une collectionneuse maladive et elle a des collections de gravures, par exemple, parce qu'elle n'a pas les moyens d'acheter des tableaux. Ses passions la poussent à dépenser davantage qu'elle n'a des rentes qui sont extrêmement modestes.
Et puis, elle adore les autographes. Oui. Elle va même décalquer des autographes de Calvin ou de Théodore de Bèze. Alors je le dis pour les auditeurs de Lyon, Théodore de Bèze qui est né au début du XVIe siècle à Vézelay, au lieu catholique, et qui sera une grande figure du protestantisme, un temps maire de Genève, me semble-t-il même. Et elle n'a pas les moyens, mais si elle avait eu les moyens, elle aurait acheté des tableaux, des gravures.
Oui, oui.
Elle est sensible. Vous l'avez dit, donc elle aime les fleurs, elle aime le jardinage, elle aime les fleurs séchées, elle aime les coquillages. Elle aime le chant, elle aime la musique, c'est un esprit curieux. Et vous disiez aussi ce rapport avec la montagne, vous parliez de musée intérieur. Il faut dire aussi qu'elle est en pleine... Enfin, elle a grandi dans la grande vague du romantisme européen.
Oui. Et elle a une faculté qui est assez exceptionnelle, que j'ai retrouvée chez certains naturalistes, je pense à Robert Hénard notamment, une faculté de mémorisation des paysages. Robert Hénard, c'était plutôt l'attitude des animaux. Elle le justifie, elle écrit sur la fin de sa vie en disant que quand elle a trouvé quelque chose de beau, c'est imprimé de manière indélébile. Elle est capable de restituer ça, que ce soit par le verbe ou par le dessin. Et ce qui fait que dans sa relation avec les artistes qui travaillent à l'illustration de l'album du Mont Blanc, et j'ai trouvé ça à travers ses lettres inédites, notamment à Joseph Burdalet, l'ingénieur genevois, qui effectuait des dessins à la plume, elle est extrêmement critique, mais avec des critiques qui sont très pointilleuses. Et elle corrige tout ce qui ne va pas dans le dessin, qu'il s'agisse d'erreurs de perspective, de gradation, de profondeur, etc. Elle lui dit « Je voudrais voir les rochers d'Éphyse, mettez-moi du détail là-dessus autant qu'il soit possible de le faire sur un troisième plan ». Donc elle est très, elle a des lettres qui sont, ils ont vraiment travaillé.
Elle a dû agacer beaucoup de graveurs et d'artistes en disant, mon Dieu, la Dangeville, on n'en peut plus, quoi. Parce qu'elle ne devait pas toujours être facile. C'était une femme qui avait un fort caractère, qui a un certain culot d'ailleurs. Alors elle peut être très mondaine, puisque bon, on ne pourra pas tout raconter, mais lorsqu'elle vit en Suisse, elle va côtoyer les salons genevois. Bon, à Ferney, elle est au château de Ferney, donc acheté par le couple David, qui ont fait fortune, ce sont des lapidaires, avec une première entreprise installée dans le Jura, et puis une succursale à La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel. Mais c'est une femme qui a une vie époustouflante, parce que même à l'âge de 70 ans, elle pouvait rester dans les balles jusqu'à 5 heures du matin.
Oui.
Une énergie époustouflante.
C'est une grande danseuse. Pendant sa jeunesse à Dijon, elle avait des carnets de bal très remplis parce que tout le monde adorait danser avec elle parce qu'elle dansait très bien. Et elle a la musique, on suppose qu'elle a l'oreille absolue, puisqu'elle a consigné pendant toute sa vie, transcrit toutes les romances qu'elle a entendues. À telle enseigne que Lucien de Flagny, qui était un pianiste-compositeur français du début du XXe siècle, a organisé à la Malmaison en 1924-26 et je crois qu'il y a eu une troisième édition, des conférences-concerts sur l'histoire de la romance française à partir des archives d'Henriette d'Angeville. Donc elle est très éclectique dans ses goûts, très perfectionniste, très exigeante et très intransigeante, ce qui fait que effectivement ça amène parfois des ruptures de ses relations d'amitié, et ça a été le cas d'ailleurs avec la famille David, qui à un moment donné, je pense,
elle a été un peu trop envahissante, voilà. C'est ça. Mais c'est vrai que lorsqu'elle côtoie cette famille David, elle a le sentiment de retrouver une famille, parce que elle est un peu brouillée avec ses frères qui ont essayé de la rouler dans la farine en raison de l'héritage. Il y a un neveu aussi contre lequel elle est fâchée par rapport au titre de comte hérité, donc suite à la mort du père d'Henriette d'Angeville. Donc c'est une femme qui effectivement essaie de se retrouver une famille à travers les David. Et puis Hélène David avait connu le deuil, et Henriette d'Angeville, le grand drame de sa vie, c'est qu'elle a perdu un jeune neveu de 23 ans, polytechnicien, qui est mort du typhus.
Oui. Et qu'elle adorait, et c'était assez réciproque apparemment, et c'est un regret qu'elle exprime jusqu'à la fin de sa vie, de manière récurrente.
Léon.
Voilà.
Et elle écrit, la mort de Léon est le grand malheur de ma vie. Il est mort le 25 juin 1850. On marque, Marc Forestier, un nouvel intermède musical. J'aimerais qu'on revienne sur cet album du Mont Blanc qu'elle ne pourra jamais faire imprimer, mais qu'elle a beaucoup montré, qui vraisemblablement a chanté sa gloire. Si elle avait voulu le faire imprimer à l'époque, ça aurait coûté, je crois, 10 000 francs, ce qui est une somme colossale. Oui. On en reparle après la pause musicale, et puis je remercie notre public qui est toujours avec nous. On se retrouve dans une poignée de minutes.
C'est le jour où l'été est arrivé, le jour où nous avons rangé nos ratés, comme l'on jette parfois du mobilier abîmé. On a déposé notre amour sur un trottoir du quartier. Alors sans cri, nous avons ri, comme pour courir le bruit de nos sanglots. Timidement, on s'est dit, restons amis, comme si c'était beau. Pourtant, c'est moins joli qu'un tout début, qu'un bouquet de roses, qu'un poème lu. C'est moins joli qu'un mot d'amour que l'on donne sans rien attendre en retour. C'est moins joli qu'un tout début, qu'un bouquet de roses, qu'un poème lu. C'est moins joli qu'un mot d'amour que l'on donne sans rien attendre. C'est le jour où nous sommes sortis du rêve avant la fin, comme si l'on avait peur qu'il ne finisse pas bien. C'est le jour où, au fond de moi, j'ai espéré que notre adieu dise à demain, comme un accord stupide. On s'est promis qu'on s'appellerait encore, qu'on se dirait bonne nuit. Malgré la solitude des matins, des réveils froids, on ne regretterait rien. Pourtant, c'est moins joli qu'un tout début, qu'un bouquet de roses, qu'un poème lu. C'est moins joli qu'un mot d'amour que l'on donne sans rien attendre en retour. C'est moins joli qu'un tout début, qu'un bouquet de roses, qu'un poème lu. C'est moins joli qu'un mot d'amour que l'on donne sans rien attendre en retour.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
La vie épistolaire d'Henriette d'Angeville par Marc Forestier, qui est avec nous devant le micro pour cette émission enregistrée vendredi dernier, 24 juin, dans le cadre du Cercle des auteurs bourguignons et en public. Merci à ce public curieux qui nous accompagne. Vous commencez à découvrir cette femme, tout comme moi, Marc Forestier, vous me l'avez rendue... passionnante, entière, courageuse, travailleuse, et puis une femme qui essaie quand même de faire sa place dans un monde encore dominé par les hommes. Et je voudrais qu'on revienne à cette ascension du Mont Blanc qu'elle n'a pas entrepris à la légère. Elle s'y est préparée alors physiquement, elle a fait confectionner son matériel pour cette ascension, préparation physique. Alors elle a aussi contacté des diététiciens et beaucoup de soins apportés à la confection du matériel. Donc on est en 3 et 4 septembre 1838 et vous l'avez dit. Alors c'est amusant, j'ai relevé que avant de quitter la cime du Mont Blanc, elle porte un toast avec une tasse de lait d'amande à la santé du comte de Paris. Parce qu'elle est restée quand même un peu royaliste. On parlera peut-être de cette aristocrate... royaliste nostalgique. Voilà. Mais bon, sur l'ascension du Mont Blanc, Marc Forestier, s'il vous plaît.
Alors, sur l'ascension du Mont Blanc, effectivement, ce qui est impressionnant, c'est le travail de préparation qu'elle a eu, que ce soit sur le plan physique, avec une succession d'ascensions plus faciles jusqu'à ce qu'elle se sente en capacité. Et c'est en descendant de l'ascension du jardin du Talefre, qu'elle a effectué sans difficulté et sans fatigue, qu'en voyant le soleil sur le Mont Blanc, elle s'est convaincue de sa capacité d'entreprendre. Et donc là, à partir de là, elle rentre à Genève et elle fait les préparatifs matériels, dont la confection de toute cette panoplie avec sa laine d'Écosse doublée de molleton, donc avec un pantalon surmonté d'une redingote. Puisqu'il n'y avait bien évidemment rien pour les tenues féminines. Il faut rappeler aussi que sur le plan physiologique, les médecins, certains médecins prédisaient le pire aux femmes qui tenteraient d'accéder aux hautes altitudes. On leur disait qu'elles allaient mourir d'hémorragie, on les considérait physiologiquement inaptes. Et donc elle a surmonté tous ses préjugés, jusque dans sa famille où il n'y a guère qu'Adolphe qui la soutenait ou l'encourageait. Elle a eu les encouragements d'une femme qui a été un modèle de femme indépendante dans sa vie importante, c'est Henriette Rath, elles ont le même prénom. Henriette Rath a une dizaine d'années de plus qu'elle, au moins, je crois, et est une peintre miniaturiste qui est très appréciée à Genève. Elle a fait tous les portraits de la bourgeoisie en miniature sur les cadrans de montre. Et elle est la fondatrice du premier musée des beaux-arts de Suisse en 1826, grâce à la fortune léguée par son frère, qui était général au service du tsar de Russie. Donc Henriette entreprend ça en maîtrisant absolument tous les aspects, et on retrouve dans sa démarche quasiment tous les ingrédients actuels du sport de haut niveau, que ce soit les recherches documentaires, que ce soit le souci de la diététique que vous avez évoqué, avec des conseils, et on a les ordonnances des médecins.
Des grands médecins.
Sur ce point.
Oui.
Que ce soit sur la composition de sa caravane, le choix des compétences, sur les aspects juridiques, parce qu'elle a pris la précaution de sécuriser l'événement à son retour en faisant co-signer par le syndic de Chamonix et par tous les guides un certificat comme quoi elle avait bien effectué l'ascension du Mont Blanc. Et c'est là que le syndic a trouvé une formule diplomatique pour dire qu'elle était la première femme étrangère à la vallée à parvenir au sommet du Mont Blanc, pour ménager la susceptibilité des chamoniards vis-à-vis de la première réalisée par Marie Paradis. Et elle a invité les relations publiques, parce qu'elle a invité Marie Paradis au repas des guides à l'hôtel de l'Union, et Marie Paradis elle s'était promise de se retrouver, mais Marie Paradis va décéder quelques mois plus tard, au mois de mars de l'année suivante. Et puis surtout, c'est la reine de la communication, parce que elle a maîtrisé absolument tous ces aspects, sinon, si ce n'est qu'elle n'est pas parvenue à l'édition de ce fameux album. Mais imaginez qu'elle est montée au Mont Blanc avec des cartes de visite et qu'elle en a eu l'usage. Parce qu'au bivouac des Grands Mulets, elle a échangé sa carte avec le comte polonais Stoppen, qui entreprenait avec une autre caravane l'ascension du Mont Blanc le même jour. Elle avait taillé à l'avance ses crayons aux deux bouts pour ne pas être freinée dans l'ascension, dans la réalisation de ses croquis. Et elle a écrit des billets du sommet du Mont Blanc, parce qu'elle a subi le mal des montagnes durant l'ascension, dans la grande côte, qui était quasiment un mur de glace, de marche taillée dans la glace, où elle a été prise de somnolence qu'elle ne pouvait pas maîtriser. Elle a été obligée de faire plusieurs arrêts. Elle a dormi au moins 4 fois. Et puis, à un moment donné, elle a eu un sursaut, peut-être aussi d'orgueil, parce qu'elle s'est rappelée que des lunettes, des longues vues étaient braquées sur elle depuis le Brévent ou la Flégère, et qu'il ne fallait pas qu'elle donne de signes de faiblesse. Et en haut, elle était en pleine forme. Les guides avaient froid, étaient fatigués, demandaient à descendre. Elle est restée 50 minutes à faire des croquis et à écrire des billets. Et parmi les billets qu'elle a écrits, il y en a un qu'elle destine à Herminie Dubois-Désy, connue donc comme Herminie de Nansouty, puisqu'elle a épousé le lieutenant-colonel d'infanterie Eugène Champion de Nansouty, et qui est restée une de ses amies et qui est la mère du général Charles de Nansouty qui va créer l'observatoire du Pic du Midi dans les Pyrénées.
Et d'ailleurs, après la conquête donc, du Mont Blanc, 3 et 4 septembre 1838, Henriette d'Angeville a pour devise « vouloir, c'est pouvoir ». Et j'ai l'impression que toute sa vie est résumée dans ce « vouloir, c'est pouvoir », ambitieuse, qui ne sera jamais éditée de son vivant.
Non.
C'est peut-être la grande frustration de cette reine du Mont Blanc, la dame du Mont Blanc, comme l'appelait son frère Gustave d'Angeville.
C'est certainement une frustration. Son ami Lady Bulwer a tenté de le faire éditer en Angleterre.
Par donc l'éditeur et imprimeur de la reine Victoria.
Oui. Mais qui voulait transformer toutes les illustrations en lithographie. Et ce qui demandait une mise de fonds que Henriette d'Angeville ne pouvait pas assumer. Certes, il y avait un public britannique, et notamment un public aussi bien masculin que féminin pour ce genre d'ouvrage sur la montagne à l'époque en Grande-Bretagne. Mais en France, les éditeurs ont estimé que ce n'était qu'une femme, que ce n'est pas, c'est pas une première, que, etc. Il y a toutes sortes de prétextes pour ne pas prendre le risque de cette édition. Mais elle a présenté en fait l'épreuve originale de cet album avec les œuvres originales, la carte des itinéraires du massif du Mont-Blanc qui lui servait de support pour présenter ça en public, sur réservation. Et ça a duré pendant plus de 2 ans. Elle a été le lion des salons au début de l'année 1840 et elle y est restée jusqu'en 1841 à faire des présentations dans les soirées avant d'aller au bal.
Et je cite Delphine de Girardin qui dit donc d'Henriette d'Angeville « Le lion du monde fashionable et intelligent est en ce moment la célèbre demoiselle d'Angeville, cette voyageuse intrépide. » Parce qu'elle a eu son moment de gloire et de notoriété, c'est incontestable.
Et comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai trouvé récemment les articles qui sont parus dans la presse américaine, The Globe en 1838, 2 mois seulement après l'ascension. En fait, il y a un patron de presse américain qui était à Chamonix, au moment où elle a réalisé l'ascension, qui l'a interviewé dans les jours qui ont suivi et qui, rentré en Amérique, a fait publier un article là-dessus. Et le New Yorker a un article de 2 pages en 1840.
D'ailleurs, je voudrais juste citer les propos du graveur genevois Jean Dubois. Vous avez expliqué combien elle était exigeante pour faire les gravures, les gouaches, donc avec ses souvenirs très précis de cette ascension du Mont Blanc. Je rappelle, plus de 4800 mètres d'altitude. Voici ce que dit le graveur genevois de Henriette d'Angeville. C'est dire quand même que tout le monde ne l'aimait pas. Ce grenadier en jupon, à la parlotte incessante, à la voix sonore, aux allures viriles, est tout à fait sans gêne. Parce qu'elle a un véritable culot. Je me demande si elle ne faisait pas peur un peu aux hommes.
Ah ben ça, c'est certain. Elle a commencé par ses frères. Elle raconte des scènes extrêmement violentes avec son frère Adolphe à l'époque de la succession paternelle où elle lui tient tête et où il menace de lui fracasser le crâne avec un bâton et où elle le défie dans le regard. Et elle dit « J'ai vu dans cet homme de faire une faiblesse, une hésitation, etc. » Mais après, elle en est nerveusement malade pendant 3 jours, parce que c'était vraiment une tension extrême. Et son frère Adolphe, quand il est à court d'arguments et qu'il a épuisé, parce qu'elle a un sens de la répartie aussi incroyable, il la traite, le dernier mot, c'est quand il est vraiment à court, c'est « simple femelle ».
Oui, oui, oui. Donc Adolphe, c'est celui qui sera un temps élu plusieurs fois député de l'Ain, il fait de la politique. On va reparler un petit peu du rapport à l'argent, parler du rapport à la religion, puis du rapport d'Henriette d'Angeville avec les hommes, parce que finalement elle est restée vieille fille. Elle meurt en 1871, elle est Virgo Virginum, vierge des vierges.
Voilà, et elle le revendique fièrement. C'est un choix qu'elle fait très, très tôt, à l'âge de 21 ans. Là, il y a des scènes extraordinaires. Elle raconte avec beaucoup d'humour comment elle a été vaccinée contre la séduction des hommes par les pratiques respectives de ses 3 frères, qu'elle décrit. Voilà, c'est croquignolé. Et elle termine en disant « Ce sera mon préservatif. » Chaque fois qu'on me fera une déclaration, que je me souvienne tout ce qu'il peut y avoir derrière d'insincérité. Et elle conclut en disant « Les hommes, je ne veux que leur estime. »
Et puis, elle se méfie des passions amoureuses un peu trop violentes. Elle a lu La Nouvelle Héloïse, donc ce roman épistolaire de Rousseau, paru en 1761. Elle naît, je rappelle, en 1794. Mais son rapport aux hommes... Alors, elle dit « Je ne veux d'eux que leur estime. » Elle l'a eu quand même parfois, des hommes qui l'ont estimé.
Oui, oui.
Mais elle a dû en effrayer certains.
Oui, même si elle a eu des propositions en mariage. Alors, elle en a refusé une première à l'âge de 18 ans, d'un mariage arrangé avec un cousin qui ne lui convenait guère. Mais elle en a eu même à Paris à 45 ans, quand elle fait la promotion de l'album du Mont-Blanc. Elle a apparemment une proposition en mariage qui très séduisante, que ses frères lui reprochent de ne pas avoir acceptée, parce qu'après, elle vit dans l'angoisse de manquer de moyens. Et ses frères, jusqu'à la fin de sa vie, son frère Adolphe lui dit « Mais la solution, c'est que tu te maries. » Mais bien évidemment, ça ne sera pas un mariage d'amour. Tu ne vas pas en plus nous demander ça. Quoi.
Vous citez Claire Eliane Angel, ou Angel, oui, qui est spécialiste Angel. En histoire de l'alpinisme, alors qui a écrit d'Henriette d'Angeville qu'elle était une vieille fille qui aimait le Mont Blanc parce qu'elle n'avait personne d'autre à aimer.
Alors en fait, c'est très surprenant de voir ça sous la plume d'une femme dans les années 50. Et c'est une paraphrase en fait d'une observation qui était faite anonyme dans le registre, le livre d'or de La Flégère, à peu après l'ascension du Mont Blanc, je crois, et qui disait à peu près la même chose. Cette misogynie que l'on retrouve même dans les propos ou les écrits de certaines femmes ont été largement contredits par les historiennes plus récentes qui trouvent que le récit de l'ascension du Mont Blanc par Henriette d'Angeville est l'un des plus beaux livres de montagne, en fait.
Donc c'est Mon excursion au Mont Blanc, qui est paru en 87 aux éditions Artaud avec une préface de Frison.
Voilà,
Roche.
En 1987,
voilà. Pardon, peut-être ai-je fourché. 1987, non, oui.
Pas en 1800, comme elle l'aurait espéré.
Mais oui, c'est ça, ce qui est terrible, voilà. C'est qu'elle n'a jamais été publiée de son vivant.
Oui.
Mais elle serait peut-être très heureuse de savoir que Marc Forestier l'a mise en pleine lumière à travers la vie épistolaire d'Henriette d'Angeville.
Je pense.
On marque un nouvel intermède musical, toujours à bord de Wagon Livre sur Radion, une émission enregistrée en public le 24 juin dernier à la Bibliothèque municipale de Semur-en-Auxois, dans le cadre du Cercle des auteurs bourguignons et en public.
Je veux pas que le temps passe, je sens que je t'oublie un peu. Bientôt il n'y aura plus une trace de ce qu'on était tous les deux. Souvent j'ai fait des blackouts trop alcoolisés. J'ai fait couler des larmes et ça je peux faire oublier. Mais là j'ai pas décidé, depuis que tu m'as quitté, j'ai peur de tout oublier. Qu'on s'est aimé, l'odeur de tes draps froissés s'efface petit à petit. Et quand on me demande si je te connais, moi je sais plus dire oui. Mon cerveau fait le tri. Est-ce que mon cœur aussi? Moi je veux pas que le temps passe. Je sens que je t'oublie. Bientôt y aura plus une trace de ce qu'on était tous les deux. Moi je veux pas que le temps passe. Je veux me rappeler de tes. mettra les plans de nos scènes de cul dans la cuisine. Moi, je suis un peu prise et toi, t'es un peu triste. Tout va se réparer, j'oublierai même que t'existes. Mon cerveau fait le tri. Est-ce que mon cœur aussi? Moi, je veux pas que le temps passe. Je sens que je t'oublie un peu. Bientôt il n'y aura plus une trace de ce qu'on était tous les deux. Moi je veux pas que le temps passe. Je veux me rappeler de tes beaux yeux. J'ai peur que ta voix s'efface.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Marc Forestier, vous connaissez bien Henriette d'Angeville. On a vu son éducation. Elle a reçu une éducation religieuse. On ne peut pas dire qu'elle l'a repoussée par la suite, mais elle avait tout de même beaucoup de méfiance à l'égard du clergé. Et puis, alors, il y a un épisode formidable, c'est qu'elle rencontre le curé d'Ars.
Oui.
Ça ne me paraît pas banal. Bon, elle ne pouvait pas savoir après qu'il deviendrait... un saint, mais...
Alors, il a déjà une réputation à l'époque qui c'est un peu... Je pense que c'est sa curiosité aussi qui l'amène à cette rencontre. Enfin, c'est son malheur, parce que... ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, elle a eu, dans sa prime jeunesse, parce qu'après la mort de sa mère, elle entre dans une école privée à Belley, auprès d'une ancienne moniale bernardine. Et là, elle y reste 4 ans et elle en a de très, très mauvais souvenirs. Et ça, elle sort dans un état psychique même assez affecté.
Vous dites de même qu'elle deviendra mécréante au culte catholique.
Oui. Ensuite, elle vient à Dijon et je suis passé ce matin à le Saint-Étienne. Où elle allait se confesser avec un nouveau confesseur qui était un ecclésiastique plus âgé, qui avait 70 ans, je crois, à l'époque, et qui l'a soulagé un peu en lui disant qu'il lui a appris ce que pouvait être son libre arbitre par rapport à des préceptes religieux. Et notamment, il y avait cette fameuse question de la danse qui la passionnait. Donc, il l'a aidé à fixer un peu les bornes ou les plages dans lesquelles elle pourrait s'adonner à cette passion et sans scrupule. Et par la suite, elle va se confesser à Chandor, sur le plateau d'Hauteville, auprès d'un jeune prêtre qui lui a été vivement recommandé et qui lui refuse l'absolution par deux fois. Et donc là, elle claque la porte du confessionnal en disant « La confession, ce sera terminé. » Et elle explique en fait comment, par la lecture d'ouvrages de controverses et l'analyse de toutes les pratiques religieuses dans le monde, elle y a consacré 2 ans. Et à partir de là, elle s'est fabriquée sa religion de raison, s'inspirant beaucoup des calvinistes, des hindouistes, remettant en cause des dogmes comme la confession, en disant maintenant, désormais, je m'adresserai à Dieu directement, je me passerai des intermédiaires. Elle expose tout cela auprès des responsables d'une mission à Hauteville. Et pour toute réponse, parce qu'elle détaille ça en mettant toutes les lectures, toutes les sources à l'appui, et ils lui répondent que malheureusement, ils n'ont pas le temps nécessaire pour pouvoir... lui fournir des réponses à ses questions, mais qu'ils sont surtout impressionnés par son érudition. Et en fait, ils se défilent purement et simplement. Et donc, quand elle va rencontrer le curé d'Ars, c'est après la perte de son neveu chéri, Léon. dont chagrin dont elle ne se remet pas.
Donc 1850.
Et, voilà. Et j'ai découvert également qu'elle a été victime à cette époque-là d'un terrible accident de traîneau dans la vallée de l'Albarine. Le traîneau a été cassé en 10 morceaux. Elle s'est retrouvée sous le traîneau et elle n'avait aucune fracture, mais un traumatisme crânien. Elle va perdre l'usage de la parole pendant plusieurs jours et elle va cracher du sang pendant un mois. Mais elle est d'une constitution très robuste et elle se remet de cet accident assez terrible. Mais elle en a des souffrances telles entre les souffrances morales et puis elle est très contrariée par le projet de mariage de son deuxième neveu. Et c'est à ce moment-là qu'elle demande une entrevue au curé d'Ars et elle a des commentaires assez caustiques sur le petit commerce qu'il y a derrière tout ça, dont elle n'est pas dupe. Et elle s'amuse du fait qu'à Belley, l'évêché fait répandre très rapidement la nouvelle que Henriette d'Angeville s'est convertie. Parce qu'elle croyait en Dieu sans avoir la foi.
Et puis elle briguera le titre de chanoinesse dans l'ordre de Sainte-Anne de Bavière qui lui sera refusé. Mais bon.
Alors oui, ça c'est une coquetterie qu'il ne lâchera pas, qu'il apprend avant la trentaine, parce que ce serait le moyen d'être appelée madame sans avoir les inconvénients du métier.
Un petit mot sur cet album où Bellefleur, elle a un rapport à la nature respectueux, elle aime les roses, elle s'intéresse aux plantes, aux algues, on a dit aussi les coquillages. Tout l'intéresse, tout la séduit. Et je trouve qu'en cela, c'est une femme profondément attachante.
Tout à fait, oui. J'ai retrouvé les cours de Pyramus de Candolle dans ses archives, cours de botanique à Genève. Et dans les lettres autographes qu'elle collectionnait dont vous parlez, on peut voir à la bibliothèque de Genève l'inventaire floristique du jardin du Talefre effectué par Alphonse de Candolle, le fils de Pyramus, et une analyse du phénomène des algues de la neige rouge effectuée par de Candolle, Alphonse, quelques jours avant l'ascension du Mont Blanc par Henriette d'Angeville. Donc elle est effectivement d'une curiosité absolument insatiable, et l'inventaire après décès de ses collections à Ferney-Voltaire, c'est vraiment impressionnant. Il leur a fallu 4 jours au notaire pour faire l'inventaire. Dans un appartement.
Oui, elle a un cabinet de curiosité. Et puis, elle reste cette figure emblématique de l'alpinisme au féminin en 1838.
Et comme elle n'avait pas les moyens d'acquérir, elle a constitué en partie ce fameux cabinet de curiosité par des paris épistolaires. Notamment avec son frère Adolphe, parce qu'Adolphe, comme il avait, vous l'avez dit, commencé une carrière d'officier de marine, il a fait des campagnes aux Indes, en Cochinchine, et il a ramené un tas d'éléments exotiques, que ce soit des coquilles, des pantins, des...
Un perroquet, je crois, aussi.
Un perroquet dont elle a eu la garde, et Coco. Elle faisait des paris dans lesquels elle, en fait, elle ne risquait rien. Le pari, c'était, par exemple, d'écrire pendant un mois, quotidiennement, une lettre de 7 pages dont ils avaient défini le calibre par contrat pour qu'elle ne triche pas sur la taille des caractères ou les interlignes, racontant des anecdotes sur des personnes connues. Et j'ai établi une connexion ce matin... J'étais aux archives de la Côte d'Or avec un personnage qui en fait partie de la famille. Et il y a une des anecdotes, parce qu'elle les donne de manière anonyme, mais j'ai fait le lien avec cette personnalité de leur environnement familial.
Et ces lettres parfois sont raccourcies en raison de l'heure du départ du courrier, de la fatigue du poignet, de la fatigue oculaire, parce qu'elle souffre beaucoup de ses yeux. Elle lit et elle écrit 12 heures par jour. Nous ne disposons, Marc Forestier, que d'une heure. Et je vous remercie Alors d'abord, je salue le remarquable travail de bénédictin que vous avez accompli autour de la correspondance et de la mise en lumière biographique, artistique, intellectuelle de cette femme profondément attachante. Et on a envie presque, on pourrait en faire un film, un feuilleton, tant son existence est superbe. Un petit mot de conclusion, s'il vous plaît, Marc Forestier.
Disons que moi j'ai été, alors que je ne m'intéressais pas à Henriet d'Angeville au départ, tellement fasciné en fait par la richesse de cette personnalité, par sa détermination, sa volonté, sa curiosité, que je me suis laissé embarquer. C'est pour ça que j'ai passé 2 ans avec elle et qu'il y a 2 tomes pour en rendre compte. Et matière à un 3e.
La vie épistolaire donc d'Henriette d'Angeville, la reine du Mont-Blanc, histoire du haut. Donc on trouve facilement votre livre en librairie.
Alors chez les très très bons libraires.
Et il y en a, notamment à ce mur. Soit, hein, à la librairie de La Poste de notre ami Cyril Lefebvre. Merci Marc Forestier d'avoir été devant notre micro et d'avoir rappelé cette figure de l'alpinisme au féminin qui est donc Henriette d'Angeville, née à Semur-en-Auxois en 1794 et morte à Lausanne en 1871. On n'a pas tellement parlé des épisodes en Suisse ou de Ferney, mais le tome 2 est essentiellement consacré à Ferney, qui s'écrivait Fernex, qui est un gros village de 1200 habitants au moment où elle s'y installe à partir de 1852. Oui. Et elle va y rester 10 ans. Hein.
C'est ça.
Voilà. Voisine donc des David, propriétaire du château de Ferney. Vous pouvez bien sûr prolonger notre échange en vous procurant les ouvrages de Marc Forestier que j'invite le public à applaudir et remercier. Et merci à vous, le public. Avant de nous séparer, c'est dans le Morvan, c'est à Anneau, en Saône-et-Loire, c'est les 16 et 17 juillet prochains, la fête du livre d'Anneau. Alors il y a un spectacle, il y a des auteurs bien sûr, des éditeurs, des bouquinistes, c'est à Anneau, 16 et 17 juillet prochains, rendez-vous à noter et rendez-vous samedi prochain toujours pour le dernier numéro de Wagon Livre de la saison puisque nous allons prendre quelques vacances le 9, samedi 9 juillet nous parlerons du dernier roman de Diane Ducret. Excellent congé de fin de semaine à toutes et à tous, au revoir et à samedi prochain.